rencontrer un petit peu cet après-midi pour parler un peu entre amis, hein. On ne va pas faire de formalité entre nous, simplement pour parler des choses importantes peut-être, de la vie. Peut-être la chose que je pourrais vous demander d'abord, vous poser une question. Qu'est-ce que... Ouais, c'est mieux quand même. Je remets la porte.
On va la fermer ?
Qu'est-ce que vous pensez de notre monde actuel ? Est-ce que quelqu'un aurait un avis, une idée, une perception particulière ? Comment vous le percevez, ce monde actuellement ? Est-ce qu'il correspond à ce que vous souhaitez ou pas ? Non. Je vois les anciens qui disent non, mais les jeunes, il n'y en a pas un qui dit quelque chose. Et on sait toujours très bien que les jeunes ont envie de refaire le monde. Ça a toujours été. Donc, le monde est compliqué et vous le souhaiteriez comment, ce monde ? Qu'est-ce qui manque un peu dans ce monde pour qu'il soit un peu plus vivable ? J'aimerais bien l'avis de la jeunesse, parce que c'est elle qui va faire ce monde, qui est l'avenir. Allez-y, hein, vous pouvez répondre. Vous pensez qu'il y a suffisamment d'amour, de compassion, de gentillesse, de bonté dans le monde actuel ? Pas vraiment. Hein. L'égoïsme. Vous souhaiteriez bien sûr que ça soit autrement, comme tout le monde. Et peut-être j'ai une autre question, alors, en prolongement de ça. Qu'est-ce que vous comptez faire pour que ça s'améliore, chacun individuellement ? Montrer l'exemple. C'est une très bonne réponse. Et montrer l'exemple, ça veut dire apprendre à déjà devenir un meilleur être humain. C'est pas par des grandes paroles ou des grandes actions spectaculaires qu'on peut changer le monde, mais c'est simplement par le biais du travail réel que l'on peut faire sur soi-même. Et c'est ce qui est beaucoup plus difficile parce que actuellement on souhaite évidemment que le monde change, mais on attend toujours que ça vienne des autres. On attend toujours que ce soit les autres qui fassent quelque chose pour que le monde change. Mais nous, en effet, qu'est-ce que nous sommes prêts à faire au niveau individuel pour que ça change véritablement ? L'enseignement du Bouddha nous a appris justement que si on voulait la paix, si on voulait la paix dans le monde, il fallait tout d'abord créer cette paix en nous-mêmes. S'il n'y a pas la paix en nous-mêmes, c'est impossible de créer la paix dans le monde. Donc ça veut dire que ce monde, ce paradis, ce monde parfait auquel on aspire tous, va d'abord passer par une réforme intérieure de nous-mêmes. Et cette réforme, elle est possible que si on a un regard sur nous. En temps ordinaire, vous savez, nos yeux, ils sont là, et on a toujours notre regard qui est fixé sur l'extérieur. Alors on voit les choses qui ne vont pas dans le monde, chez les autres, et on est très critique, hein, d'ailleurs, sur ces choses-là. Voilà, tel est comme ça, tel est comme ça. À l'école, c'est pareil, on voit les défauts des copains, des copines, mais soi-même, on se voit pas. Et mon maître disait toujours, oui, forcément, parce que nos yeux, c'est pas l'idée, ce truc-là, ça résonne un peu. Nos yeux sont toujours tournés.
Oui.
Ça fait du larcin, parce que c'est trop près, en effet. Nos yeux sont toujours tournés vers l'extérieur et pas vers l'intérieur. Et pour que ce changement, justement, intérieur s'opère, il faut développer ce qu'on appelle l'œil de sagesse. Cet œil de sagesse, il est présent en nous-mêmes, tout le monde l'a, puisque, comme vous le savez certainement déjà, tous les êtres ont la nature de Bouddha en eux-mêmes, c'est-à-dire la nature éveillée. Si nous n'avions pas cette nature éveillée en nous-mêmes, on ne pourrait pas la réaliser. Si par exemple il fallait aller chercher cette nature de Bouddha quelque part, dans un monde particulier, sur une planète, etc., ça serait extrêmement compliqué. On aurait beaucoup de difficultés, pour ne pas dire ce serait impossible donc, de pouvoir le faire réellement. Or là, évidemment, on a toutes les capacités en nous-mêmes, puisque cette nature de Bouddha est là, et on a l'enseignement aussi qui nous est donné sur la manière de procéder pour pouvoir, en effet, rencontrer cette nature de sagesse, cette nature de Bouddha qui est en nous. Le Bouddha a enseigné toutes sortes de méthodes pour cela. Et c'est en même temps, grâce à ce travail-là, qu'on peut véritablement changer le monde. Imaginez que toutes les personnes qui peuplent la planète prennent le temps de s'asseoir, ne serait-ce que 10 minutes, sur un coussin, tous en même temps. Ce serait formidable. S'asseoir sur un coussin de méditation et pendant 10 minutes, rester tranquille. Regardez ce qui se passe à l'intérieur. Et pendant ces 10 minutes-là, notre monde deviendrait un paradis. Et oui, parce que tout s'arrêterait, les guerres, les conflits, les querelles, les disputes. Les éléments extérieurs eux-mêmes, qui sont directement reliés à nos états d'esprit, se calmeraient. Les tempêtes s'apaiseraient. Cataclysme. Et en effet, pendant cette période de 10 minutes, eh bien, notre terre deviendrait la terre du Bouddha. Du Bouddha, comment vous dites ? Amitabha, vous le dites aussi en Aïda. Voilà. Et voilà. Le gros problème, c'est que c'est un peu utopique. Dans la mesure où pour que tout le monde s'assoie en même temps et décide justement de rester tranquille et d'arrêter l'activité, de se regarder intérieurement, c'est quasiment impossible, quoi. Donc c'est une utopie. Mais par contre, nous-mêmes, on peut le faire. On peut le faire individuellement et en effet, pour rejoindre ce que vous disiez, devenir un exemple pour les autres. Et en tant qu'être humain, finalement, notre devoir, c'est de vraiment cultiver cette sagesse en nous-mêmes par ce regard intérieur pour faire que notre monde devienne un monde de paix. Donc, ça veut dire en même temps que nous sommes responsables de nous-mêmes. La responsabilité, elle n'incombe pas à quelqu'un d'autre. À peut-être un dieu extérieur auquel on attendrait tout de lui. Je vois beaucoup de gens, par exemple, qui prient le Bouddha, qui se prosternent devant le Bouddha et qui prient sans cesse le Bouddha, en espérant que le Bouddha résolve tous les problèmes. Et quand je dis le Bouddha, c'est valable aussi sur les autres voies monothéistes, comme les chrétiens, les musulmans, les juifs. On attend tout de Dieu, que Dieu accomplisse nos desseins. Mais hormis ça, que sommes-nous prêts à faire nous-mêmes pour que les choses changent? Tout simplement parce que le Bouddha lui-même ne veut pas changer les choses, tout dépend de nous. Le Bouddha peut nous indiquer la route, le chemin, mais il ne peut pas faire le travail à notre place. Et si nous-mêmes, nous ne sommes pas conscients de ce qui nous habite à l'intérieur de nous, comment pouvons-nous voir ce qui est important de changer dans nous-mêmes et ce qui est important d'adopter en nous-mêmes? Donc, en fait, nous avons chacun, comme je disais tout à l'heure, une responsabilité. Si le monde, il est tel qu'il est à l'heure actuelle, eh bien, c'est nous qui l'avons créé, ce monde. C'est rien d'autre que nous. Voilà, nos parents y ont contribué, nos grands-parents et nous-mêmes, nous avons fait de ce monde un monde violent, un monde intolérant. Il n'y a pas que ça, il y a des belles choses quand même qui sont accomplies. Et tout ça, c'est lié donc à notre état d'esprit intérieur. Et tant que nous refuserons nous-mêmes à nous regarder intérieurement, à voir nos défauts et à remettre en question ces défauts pour développer des qualités, devenir de meilleurs êtres humains, nous ne pouvons pas donc espérer que le monde change. Et nous ne pouvons pas non plus espérer nous-mêmes être heureux. Parce qu'il va de soi que nous sommes habités par beaucoup d'émotions perturbatrices, par beaucoup d'afflictions, nous ne sommes pas heureux. Et de ce fait, nous créons aussi beaucoup de souffrance chez les autres. Et c'est comme ça que notre monde devient progressivement un monde invivable. Parce qu'il y a ce refus et cette incapacité de chaque être humain de se remettre en question. Et ça, c'est un, on pourrait dire, c'est un défi, c'est un challenge véritable. Donc il faut comprendre que le Bouddha nous a toujours incité justement à nous remettre en question, à nous regarder pour que les choses changent. Il a dit, moi je peux que vous montrer la voie, que vous donner les méthodes, mais je ne peux pas faire le travail à votre place. Et ça c'est le message essentiel, si vous voulez, du Bouddha. Et c'est grâce aux différentes techniques, et entre autres la méditation, que l'on peut commencer progressivement à apprendre à se rencontrer soi-même. En temps ordinaire, on fuit cette chose-là. Quand on regarde bien comment on fonctionne, hein, regardez bien dans votre vie comment vous fonctionnez, dès qu'il y a un petit problème quelque part, tout de suite, oh là là, c'est la fuite. On cherche une occupation particulière, on sort son téléphone portable de la poche, je vois toujours les gens qui sont là, et tout de suite, ils sortent de l'école, les jeunes, vite, tout de suite, on se demande s'ils arrivent à communiquer entre eux, si... Donc, on s'échappe toujours dans quelque chose. On fuit à travers ça. On fuit à travers les jeux vidéo, à travers la télévision, à travers les distractions, et tout ça, c'est pour fuir notre réalité intérieure. On est incapable de se poser, ne serait-ce que 5 minutes, sur un coussin, pour voir qui on est. Et quand je dis, évidemment, je parle des jeunes, mais c'est valable pour tout le monde, bien entendu. Et comme ce sont les jeunes, surtout, qui vont faire la société de demain, c'est surtout à vous qu'incombe cette responsabilité. Si vous ne faites pas l'effort d'apprendre à vous regarder intérieurement, à devenir meilleur, à voir vos défauts et à ne pas les fuir, à rencontrer ces défauts et à travailler avec, pour les transformer en sagesse, comme a fait le Bouddha, comme ont fait tous les grands maîtres qui ont jalonné l'histoire du bouddhisme depuis des temps sans commencement, ce n'était pas à partir du Bouddha Shakyamuni, mais c'était bien avant aussi, parce que le Bouddha Shakyamuni n'a pas inventé le bouddhisme. Le bouddhisme a toujours existé, la bouddhéité a toujours existé. Ça vous donne envie de dormir, ce que je dis. On peut fuir aussi dans le sommeil, hein. C'est une fuite de sommeil aussi, hein. Pour pas voir. Je disais hier, il y a un nouveau truc qui circule sur Internet que j'ai trouvé génial. Vous savez comment qu'on appelle les humains maintenant? Les moutruches. Vous savez ce que c'est qu'une moutruche? C'est l'alliance d'un mouton et d'une autruche. Donc on dessine mais un dessin où c'est le corps d'un mouton avec un cou d'autruche et une tête d'autruche. Alors pourquoi on appelle les humains la moutruche?
qu'est-ce qui pourrait me donner la signification de ça? Oui. C'est pas tout à fait ça. L'autruche, quand il y a un problème dans sa vie, elle se fond la tête dans un trou pour pas voir. Et bien, l'être humain, c'est ça. Il est l'alliance entre le mouton et l'autruche. Comme il est incapable de prendre des décisions par lui-même, il suit le troupeau. Alors si le troupeau va dans le précipice, bien, tout le monde y va avec. Ou alors, pour pas voir les problèmes, il fait comme l'autruche. Pour pas voir sa propre réalité, pour pas voir ce qu'il faudrait changer, ben, il se met la tête dans le trou pour pas voir, voilà. Comme l'autruche. Donc le moutruche, voilà, nous sommes tous des moutruches. Est-ce que vous voulez rester une moutruche? Non. Oui? Vous voulez rester une moutruche? Il dit oui. Voilà. Et on s'imagine que nos actes, finalement, au quotidien, n'ont pas vraiment d'incidence. La plupart du temps, on suit nos désirs du moment. On veut ça, ben, on le prend, on se procure les choses selon nos désirs, on rejette les choses en fonction aussi de nos ressentis intérieurs. Et on ne voit pas forcément les conséquences de cela à plus ou moins long terme. On s'imagine que finalement, ben, c'est comme ça, j'ai décidé que ce soit comme ça, ça n'ira pas au-delà de ça. Évidemment, si on nous enseignait à l'école la loi de causalité, la loi de cause à effet, ce serait différent. Mais malheureusement, on ne nous l'enseigne pas à l'école. Il n'y a que dans les centres bouddhistes qu'on enseigne cette loi-là. Dans d'autres traditions, on nous dit « Ah oui, il faut être bon, il faut être généreux, il faut être compassionné, etc. » Mais ils ne nous enseignent pas la loi de causalité. Alors, je pense que vous la connaissez tous, hein. Vous êtes issus de beaucoup de familles bouddhistes déjà, vous savez que tout acte, toute parole ou toute pensée que l'on émet a une incidence et un résultat à plus ou moins long terme. Et ce résultat, il est de la couleur de la cause elle-même. Si nous accomplissons des actions négatives, eh bien le résultat qui sera produit à un moment ou à un autre, qui arrivera à maturité, eh bien, ce sera immanquablement de la souffrance pour nous. C'est comme ça que ça se passe. C'est une loi qui est universelle et qui ne s'adresse pas qu'aux bouddhistes, bien entendu. Il y a des gens qui pensaient à un moment, mais ça c'est une loi bouddhiste, il n'y a que les bouddhistes qui pensent ça. Mais non, la loi de causalité, elle s'adresse à tout, toute la manifestation. Rien n'apparaît sans cause. Et nous-mêmes, à travers nos pensées, lorsque nous avons des mauvaises pensées, nous imaginons peut-être que ça n'a pas d'incidence sur les autres et sur l'univers entier. Mais au contraire, ça a vraiment une incidence. Et c'est ce qui crée ce qu'on appelle des égrégores. Des égrégores, ce sont des courants d'énergie négative qui s'assemblent et qui deviennent extrêmement puissantes lorsque beaucoup d'êtres ont des mauvaises pensées à la fois. Et après, on s'étonne, bien entendu, pourquoi des peuples entiers se mettent en guerre, pourquoi il y a des cataclysmes, des perturbations climatiques, etc. Et tout ça, ça vient justement de notre état d'esprit et de cette méconnaissance de la relation qu'il y a entre nos pensées, nos paroles et nos actes et l'univers entier. Tout agit, bien sûr, en fonction de ça. Toutes les conséquences donc, sont relié complètement à la cause, et la cause, elle est à l'intérieur de nous. Car l'esprit lui-même, c'est lui qui crée toute chose. Donc nous avons, si vous voulez, à prendre conscience de notre responsabilité par rapport à ce que nous pensons, par rapport à ce que nous pouvons exprimer à travers la parole et à travers le corps dans nos actions. Cette responsabilité, ça veut dire que nous sommes déjà responsables de notre devenir. Parce que ce que nous fixons maintenant comme acte, c'est ce qui va fixer, si vous voulez, la qualité de notre devenir, en vertu de cette loi de cause à effet. Et connaissant cela, si vous savez par exemple qu'en accomplissant des actions négatives, ça va vous revenir en pleine figure, à un moment ou un autre, dans cette vie, dans une vie future, sous forme de souffrance, vous faites attention. Hein, parce que sincèrement, moi, la souffrance, j'aime pas trop ça. Je sais pas si vous, vous aimez ça, j'imagine que non. Hein? Mais quand on comprend les causes de la souffrance, après, on fait attention justement à la qualité des causes que l'on produit. Imaginez que je me trouve, par exemple, dans cette salle, je suis là, j'écoute le lama qui parle, et puis tout le monde est attentif. Je suis au fond de la salle, là, et puis je vois la dame qui a son sac là, sur le sol, et puis je vois un porte-monnaie qui sort de là, qui est dans son sac, et puis je me dis, tiens, elle ne voit rien, elle regarde, elle écoute le lama, je vais plonger la main dans le sac, et puis je vais lui piquer son porte-monnaie. Voilà. Je peux le faire, personne ne verra. Tout le monde est absorbé. Ni vu ni connu. Après, je vais sortir, tout le monde va s'en aller. Quand la personne, la dame se rendra compte que son porte-monnaie n'est plus là, il sera trop tard. Qu'il l'a volé, qu'il l'a pris, personne ne saura. Mais si je connais la loi du karma, la loi de causalité, je ne le ferai pas. Et là, je n'ai pas besoin d'un gendarme derrière moi pour me dire ce qu'il faut faire ou pas faire. Je deviens moi-même mon propre gendarme. Parce que si je sais que je fais cet acte-là, peut-être je ne serai pas pris par les hommes, par la loi des hommes, je ne serai pas puni peut-être par la loi des hommes, mais au moment de ma mort, au moment de la mort, je devrais rendre des comptes par rapport à cet acte et à tous les autres, bien sûr, que j'ai connus. Et la conséquence de cela, bien sûr, ce ne sera pas du bonheur pour moi. Ce sera de la souffrance. Soit dans une mauvaise renaissance, soit dans les mauvaises expériences lors de ces renaissances. Et c'est ce qui fait toutes nos différences entre nous. Pourquoi nous sommes différents? C'est parce que nous avons un karma différent. Pourquoi il y a des êtres qui sont heureux, qui ont de l'argent, on a l'impression que tout leur sourit, et puis d'autres qui galèrent toute leur vie. Ils sont malheureux. Pourquoi certains sont blonds, d'autres sont bruns, d'autres ont les yeux bridés, la peau noire, la peau blanche. Pourquoi certains sont grands, sont petits? Pourquoi certains naissent avec des maladies et d'autres sont en bonne santé? Tout ça, c'est lié au karma et aux actes que nous avons accomplis dans les vies passées. Et il n'y a pas d'injustice maintenant. Souvent les gens disent, oh, c'est injuste, j'ai fait du bien toute ma vie et j'ai souffert toute ma vie. À quoi ça sert de faire du bien? Mais si la personne connaissait l'existence de cette loi du karma, elle saurait que si elle accomplit du bien dans cette vie, c'est super, mais qu'est-ce qu'elle a fait dans la vie d'avant? Est-ce qu'elle récolte? Non, c'est les vies. Si elle est malheureuse, c'est les fruits des actes erronés qu'elle a accomplis dans les vies passées, dans la vie passée. Par contre, ce qu'elle a fait de bien pour servir les êtres dans cette vie, eh bien, elle en récoltera les fruits dans la vie d'après, sous forme de bonheur. Donc il n'y a pas d'injustice. Il y a simplement le retour de bâton, on pourrait dire, de ce que nous avons fait. Et c'est en ça qu'il faut apprendre, en tant qu'être humain, vous qui êtes jeune, à devenir responsable de votre vie. Parce que c'est vous qui vous fixez votre avenir dans l'instant, à chaque instant que vous vivez, en fonction de votre état d'esprit et la qualité de vos actes, vous préparez votre avenir. On a tout intérêt, bien entendu, à accomplir les causes de bien pour le futur. Ne serait-ce que, bien sûr, pour nous, mais aussi pour les autres. Parce que si nous ne sommes pas responsables de la souffrance qu'endurent les êtres actuellement, nous sommes responsables de leur propre bonheur futur. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que nous devons devenir un exemple pour les autres, développer des qualités qui vont nous permettre d'aider véritablement les autres, qui vont nous permettre de devenir quelqu'un de fiable, quelqu'un sur qui on peut compter, et c'est ça qui va contribuer au bonheur des autres. Donc nous sommes redevables finalement, nous sommes responsables aussi du bonheur des autres, si nous ne sommes pas responsables de leur souffrance. Vous voyez? Et ça, quelqu'un qui a cet état d'esprit, cet état de pensée, de se dire « je vais me perfectionner pour devenir un modèle pour les autres », eh bien on appelle cela un bodhisattva. C'est quelqu'un qui a fait le souhait d'aider les êtres. Mais il sait très bien que pour pouvoir aider les êtres, il faut avoir les capacités pour cela. si on n'a pas les capacités, on ne peut pas aider les autres. Et les capacités, ça veut dire quoi? Ça veut dire acquérir de la sagesse. Ça veut dire voir ses défauts, transformer ses défauts, parce qu'on ne peut donner aux autres que ce que l'on possède. Si on n'a pas de qualité développée en nous, si on n'a pas de bonté, de générosité, de patience, de compassion, d'amour en nous-mêmes, qu'est-ce qu'on peut donner aux autres? On ne peut pas le donner, puisqu'on ne l'a pas. Donc c'est comme ça qu'on devient utile véritablement aux autres, en travaillant d'abord sur soi-même, en étant conscient de nos défauts. En travaillant sur ses défauts, c'est ce qu'a enseigné le Bouddha. Et pour que ce soit possible, eh bien on en revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut développer cet œil de sagesse intérieure. Parce que ça ne sert à rien de prier le Bouddha si vous ne remettez pas en question vos défauts. Ça ne sert à rien. Je vois beaucoup de gens qui viennent dans les temples, moi je vois ce qui se passe dans les esprits. Je vois beaucoup de gens qui viennent dans les temples, qui sont pleins de dévotion envers le Bouddha, qui sont incapables de voir leurs désirs, leur dépendance au désir, leur dépendance à la colère, à la jalousie. C'est très fort la jalousie. Très très fort. Et à quoi ça sert alors de prier le Bouddha dans ce cas-là? Le Bouddha lui fera rien pour que ça change en vous-même. Il va vous donner une bénédiction, mais si vous êtes fermé, comment cette bénédiction va pouvoir pénétrer en vous-même? Donc ça veut dire qu'il y a un effort à faire, il y a une responsabilité. Et cette responsabilité, c'est de s'asseoir, de prendre le temps, de stopper un peu les distractions, d'apprendre à se concentrer et de se regarder soi-même intérieurement pour voir qui on est, comment on fonctionne, quels sont nos défauts, quelles sont nos qualités. Est-ce que vous avez des questions ? Ce que j'ai dit ou vous n'avez pas compris? Est-ce que c'est clair ou est-ce que c'est pas clair?
Les conséquences qui ont lieu si dans notre vie habituelle, enfin notre vie arrive, ou après.
Elles peuvent apparaître dans cette vie. Tout dépend de. C'est très complexe le karma, mais en règle générale, ça n'apparaît que dans les vies d'après, après celle-ci. Quand les conditions, les causes et les conditions sont présentes, il faut qu'elles soient réunies pour ça, pour que la chose arrive à maturité, le karma arrive à maturité. Donc ça peut être un karma qui va mûrir très vite dans cette vie, comme ça peut être un karma qui va demander plusieurs vies pour mûrir. Karma, c'est très complexe à comprendre. On l'explique comme ça d'une manière simple, mais seul un Bouddha peut réellement comprendre le sens en profondeur du karma. D'ailleurs, un Bouddha, lui, il voit le karma de tous les êtres en même temps. Il a cette capacité-là. Alors que nous, on n'est même pas fichu de voir le nôtre. On n'est même pas fichu d'avoir deux pensées en même temps. Le Bouddha, lui, il peut avoir des milliards de pensées en même temps. C'est extrêmement difficile à comprendre. On peut l'expliquer comme cela, comme je l'ai dit déjà. Et réfléchir justement là-dessus. C'est important parce que notre vie, elle va dépendre, la qualité de notre vie va dépendre de cette compréhension et de ce que nous sommes prêts à faire pour changer ce qui doit être changé. Et souvent, moi, j'entends les gens dire « Oui, voilà, je suis malheureux dans cette vie, mais ça, c'est de la faute de mes parents qui m'ont mal élevé, ou qui m'ont pas aimé suffisamment, ou qui m'ont pas donné ce que je voulais. Oui, c'est de la faute à mes frères et mes sœurs qui m'ont torturé, qui m'ont créé des problèmes dans ma jeunesse. Oui, c'est mes professeurs qui m'ont enseigné des choses que j'ai pas compris, ils comprenaient rien eux-mêmes, etc. » Oui, et puis plus tard, quand on grandit, c'est de la faute de mon patron qui m'exploite, ou la faute de mon mari ou de ma femme qui me pourrit la vie, mes enfants qui m'embêtent constamment, qui me créent des problèmes. Et puis quand on n'a pas on n'a plus d'argument, c'est la faute de Dieu, ou la faute de Bouddha, ou la faute de je ne sais quoi là-haut dans le ciel. Alors, on ne s'est jamais posé la question si on était pour quelque chose nous-mêmes, un peu dans l'histoire. Et voilà. Et ce retour intérieur dont a parlé le Bouddha, c'est ça. C'est arrêter de penser que c'est de la faute des autres quand il nous arrive quelque chose, et se poser un peu plus la question de savoir si ça serait pas, on ne serait pas un peu pour quelque chose dans l'histoire. Et c'est ça notre responsabilité, devenir adulte et responsable, c'est se prendre en charge soi-même. Apprendre à se regarder, à se poser pour ça. C'est nécessaire de se poser sur un coussin, arrêter l'activité extérieure comme on va faire tout à l'heure, pour voir un petit peu comment ça fonctionne à l'intérieur et qui nous sommes. En temps ordinaire, nous n'avons pas cette capacité-là, parce qu'on ne s'est pas entraîné. Et ça, je trouve que c'est un message formidable. Il est révolutionnaire à plus d'un titre, il l'a toujours été, ça fait presque 2600 ans, 2550 quelques années, qu'il est révolutionnaire. Il est toujours d'actualité, et il n'a jamais été autant d'actualité. Quand on voit l'état de notre monde, on pourrait se dire, il y a encore du boulot. Hein. Vous voyez ? Donc ça, ce sont des valeurs qu'on nous apprend, on ne nous apprend pas vraiment à l'école. Ah, on nous apprend plein de trucs, hein, la science, des machins, les mathématiques. Des... Mais les choses essentielles de la vie, on ne nous apprend pas. À devenir bon, à devenir compassionné, à voir nos défauts, à les changer, à connaître la loi de causalité, la loi de l'impermanence. Parce que oui, tout est impermanent. On pense que notre vie va durer comme ça éternellement. Oh oui, on voit bien des gens qui vont au cimetière, qui meurent, et c'est toujours les autres qui meurent, c'est jamais nous. Quand on va au crématorium ou au cimetière, c'est toujours les autres qu'on enterre, qu'on brûle, mais nous on est toujours là. Alors on pense que ça n'arrive qu'aux autres. Mais un jour, c'est nous qui serons là, dans le cercueil. Et ça, on ne sait pas, on n'y pense pas. Oh là là, faut pas penser à ça, oh là là, ça fait peur. Ah oui, mais... Si on ne pense pas à l'impermanence, ça crée beaucoup de problèmes dans notre vie. Parce que tout change sans cesse. On s'attache aux choses alors qu'elles changent sans cesse et sans cesse. C'est nous-mêmes. Pour l'instant, on est jeunes. Quand je regarde, moi aussi j'étais jeune comme ça. Maintenant, quand je me regarde devant la glace, ça ne s'arrange pas. Hein. Et ça ne va pas en s'arrangeant d'année en année. Eh bien oui, ben oui. Et le temps, quand il passe, il ne peut pas être rattrapé. Le temps qui est perdu, il est perdu. Et si on a gaspillé son temps à accomplir que des choses futiles, qui n'ont aucun sens, à entretenir nos désirs, notre ego, eh bien cette vie-ci a été complètement perdue. Et au moment de la mort, même si on prend conscience que maintenant il serait peut-être temps de pratiquer la méditation, de pratiquer la voie vers l'éveil, il est trop tard. Moi j'en ai vu des gens au moment de la mort qui regrettaient tout ce qu'ils avaient accompli dans leur vie. Ils se rendaient compte d'un seul coup que tout ce qu'ils avaient fait, ça n'avait aucun sens. Ah, oh, oh là là, pourvu que le Bouddha me sauve, le Bouddha. Ben oui, mais le Bouddha il ne peut rien faire. Si toi tu n'as rien fait durant ton existence, c'est pas lui qui pourra faire les choses à ta place. Il est trop tard. Quand on est jeune, on ne pense pas à ça. On a envie de vivre, on a envie de s'amuser, on a envie de faire plein de choses. Puis le temps passe. On entretient nos défauts. On oublie un peu les autres. On pense qu'à soi, à satisfaire nos désirs. Et le temps passe. Et le temps passe. Et puis un jour, la mort arrive. Et là, il est trop tard. Donc c'est étant jeune qu'il faut avoir cette conscience-là. Moi, je l'ai eu un peu plus tard, malheureusement, mais j'aurais souhaité. Bon, j'avais déjà cette conscience-là, mais je n'avais pas les moyens à l'époque de pouvoir éclaircir cela. Mais si j'avais pu rencontrer le Dharma du Bouddha dès ma naissance, ça aurait été formidable. Mais malheureusement, c'était vraiment mon karma dans cette vie. C'est venu que bien après. Vous avez cette chance incroyable d'avoir l'enseignement du Bouddha d'avoir des maîtres qui vous enseignent, qui peuvent vous guider sur la voie, vous donner des conseils. Ne ratez pas ça. Parce que c'est exceptionnel. Rien ne prouve que l'enseignement du Bouddha va durer encore. Peut-être dans 10 ans, il n'existera plus. Qu'est-ce qu'il peut dire? Il sera encore là dans 5 ans, dans 10 ans. Qu'il y aura des maîtres, des vénérables pour vous enseigner. Personne ne peut le dire. Donc tout le temps qui est perdu, il est perdu. Mais ça n'empêche pas de vivre votre vie. Votre vie de jeune, votre vie d'ado, votre vie d'adulte. Mais ça veut dire simplement donner un sens à sa vie. Et pas vivre les choses n'importe comment. Vous voyez ? Voilà, c'était un petit message que je voulais vous passer aujourd'hui. Si quelqu'un a une question, profitez-en. Bon, on arrête. Hein. Bon, okay. Bah, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Merci d'être venu. Écoutez ce vieux lama qui radote, qui dit toujours la même chose. Et je vous souhaite plein de bonheur. Si vous voulez méditer, c'est le moment.
On va prendre la place à haut.
Ça va, oui.